Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et des gars. Donc aujourd'hui, on fait un épisode retour sur l'Ukraine. La situation a quand même beaucoup évolué depuis la dernière fois. En ce moment, on est tous à distance. Donc on a chacun nos micros. Donc vous me donnez des retours. Si vous pouvez me donner des retours sur notre son, notre qualité sonore, ce serait assez cool. Donc aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de Astro5
Bonjour.
et de Pidoulion.
Bonsoir à tous.
Et c'est Raddy de Brown qui vous parle. Donc, je pense qu'on pourrait commencer tout de suite. Ça va pas être un très gros épisode. Je pense que c'est un épisode un peu revenir un peu sur qu'est-ce qu'on a parlé dans notre ancien podcast et de revenir sur des nouveaux arguments aussi. Je pense que j'ai des nouveaux arguments, surtout que on va partir tout de suite sur notre premier sujet, qui était un peu l'implication des États-Unis commence à devenir de plus en plus forte dans ce, je dirais pas conflit, mais bon, dans cette mêlée-là qui est l'Ukraine en ce moment. Donc, on a des États-Unis qui commencent à donner des armes, qui commencent à vouloir, qu'il y a des rappels avec l'OTAN. Donc, ça commence à devenir un peu gros pour moi en tant que tel. Personnellement, j'ai une petite peur. On dirait que j'ai une histoire qui recommence. Donc j'aimerais ça commencer peut-être avec Astro Pidou, peut-être sur vos impressions un peu là, sur ce que les Américains sont en train de faire, un peu la réaction là, de tout le monde par rapport à ça.
Bah vas-y,
Oui,
Astro,
bah
éventuellement.
ouais, c'est ça, je peux y aller. Alors, que font les Américains? Ils font encore n'importe quoi. Non, effectivement, c'est par rapport à la dernière fois, par rapport à notre dernier épisode, ça a un peu escaladé en termes de tension et de discours. Alors, en même temps, oui et non, c'est ça que moi je trouve intéressant. C'est que ça reste très. On donne des armes. L'Angleterre qui veut, enfin le Royaume-Uni qui veut aussi donner des armes, le comment il s'appelle, l'Allemagne qui dit ah finalement non on va pas donner d'armes, nous on préfère ne pas escalader, vous faites que escalader les tensions etc. Et par-dessus ça les États-Unis qui ont un double discours je trouve qui est intéressant et qui moi je comprends pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire hein, pour être totalement honnête. C'est-à-dire que d'une part ils sont là à dire si vous continuez, il n'y aura pas de retour, on va défendre l'Ukraine. T'sais, genre, en gros, ils sont clairement en train de dire qu'il y aura une guerre ouverte entre les États-Unis et la Russie sur le territoire ukrainien. Et d'un autre côté, ils gardent tous les canaux diplomatiques ouverts. Ils disent aux familles en Ukraine, les familles de diplomates, de partir, mais ils font pas de vol américain pour les rapatrier. Ils disent vous pouvez prendre des vols commerciaux pardon, à votre disposition. Ils laissent pas tout, enfin il y a la grande partie du personnel qui reste quand même aussi sur place. Là ils ont juste précisé que c'était pour les familles. Donc il y a quand même une peur de bombardement et d'affrontement parce qu'ils diraient. Mais d'un autre côté, ils te disent ça, mais d'un autre côté, t'sais, ils vont pas évacuer les piliers non plus. Donc et encore plus ils les laissent par vol commerciaux, donc c'est pas non plus un risque de guerre imminent. Donc je trouve qu'ils jouent un peu sur un double discours en permanence. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, parce que les États-Unis, eux, ils ont une deadline qui est importante, très importante pour le pays américain, qui est en novembre les élections de mi-mandat, et qui va être la sanction pour Joe Biden ou non. Donc avec le fiasco en août dernier de la guerre en Afghanistan, repartir dans une guerre à l'étranger, c'est vraiment pas une bonne idée, s'investir autant non plus, surtout quand, dans l'absolu, il n'y a rien qui se passe en dehors de déplacements militaires et de manœuvres qui sont des manœuvres qui, moi j'ai appris ça aujourd'hui, sont pas récurrentes, mais il y en a de temps en temps des manœuvres. Ce qui change vraiment différemment là, c'est qu'au lieu que ça soit 5 000 soldats, c'est 100 000, donc forcément, tu te dis pourquoi ils font ça. Pareil, des manœuvres navales où il n'y en a pas souvent. Puis là, ils ont fait ça de manière récurrente, etc. Donc vraiment, le rôle des États-Unis, je comprends pas. Et je finirai sur ce point-là. Je pense que Poutine, en fait, est en train de gagner son pugilat politique en réussissant à n'avoir qu'un seul interlocuteur qui est les États-Unis. Alors, je pense qu'on y reviendra après. Je développerai plus tard pourquoi. Je préfère d'abord qu'on entende, je pense, Pidou sur. Lui, c'est quoi son avis et qu'est-ce qu'il pense justement des différents acteurs?
Oui, ben bonsoir à tous.
Ah oui, j'ai
Alors
pas
moi
dit
pour
bonsoir.
le
Bonsoir.
Alors bonsoir parce que moi je suis sur le vieux continent au moment de l'enregistrement de ce podcast. Et moi, je vois la différence aujourd'hui au niveau des médias. Quasiment, allez, je vais vous dire, tous les deux soirs, dans le journal de 20h, on a une mention donc, de ce conflit qui se profile. Mais il est abordé vraiment en mode, je vais vous prendre l'exemple l'autre jour. Vous savez qu'en ce moment, il y a des manœuvres. Les manœuvres ne sont pas seulement à la frontière de l'Ukraine, mais elles sont aussi désormais en Biélorussie. Donc, il y a beaucoup de matériel qui a été envoyé, du matériel russe en Biélorussie. Alors, les rapports officiels russes, bien évidemment, disent que je crois que c'est pour aider la Biélorussie. Enfin, ils ont pris un prétexte pour dire ça. C'est pas officiellement la Russie, c'est le Bélarus qui fait des choses. Mais bon, on voit. Enfin, ça nous rappelle l'ancien débat d'ailleurs qu'on a eu dans le podcast précédent de l'utilité du pantin du Bélarus actuellement. Et l'autre chose qui me concerne beaucoup, c'est le fait qu'on ne parle absolument pas, voilà, de la réaction occidentale ici. On a parlé du, comment on appelle ça?
Ici, t'es en France peut-être pour préciser, France, parce pardon. Que le continent, oui. c'est vaste.
C'est vrai, pardon.
En France, les journaux français, les médias français.
On a parlé un petit peu de l'accord, des discussions qu'il y aurait eu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des discussions à Paris.
Oui.
L'OTAN a remis apparemment un cahier de demandes concrètes à la Russie à respecter. Ça, c'est quelque chose qui, en sciences politiques, est quand même très fort. C'est-à-dire qu'on a littéralement des demandes qui sont faites. Et c'est la première question qu'on doit se poser, nous, c'est « Et si les demandes ne sont pas rencontrées, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, en fait, la conséquence ?» Et Biden s'est très clairement exprimé que s'il y avait intervention russe, de son côté, Biden voit une « sacred obligation ».
Donc, oui, une obligation sacrée, il a dit un lien sacré unit l'Ukraine et les États-Unis, donc on est dans le mystique.
Mais quel homme ce président, quel homme.
Et donc ouais. Et une autre chose qu'on évoquait dans notre une autre chose qu'on évoquait dans notre précédent podcast, c'était justement la perturbation que pouvait avoir Vladimir Poutine dans un autre pays et envoyer ses propres troupes en renfort de cette manière. On voit clairement qu'au Kazakhstan, c'est la mouvance actuelle. Il y a clairement eu des perturbations dans le pays et c'est des. Alors, c'est pas l'armée régulière russe, mais c'est les troupes russes, on va le dire comme ça, qui sont venues calmer le jeu. Donc, il y a une volonté extérieure de la Russie. Après, est-ce qu'elle est offensive ou est-ce qu'elle est, comme le disait Astro il y a quelques semaines dans le podcast, beaucoup plus sur la démonstration de force et en fait de la diplomatie par l'image plutôt que la diplomatie par les actes. Ça, c'est le jeu dangereux. Donc voilà, je finis juste sur les manœuvres qui jouent sur la perception. Et à la fin, pour le dilemme de sécurité en général, on sait que les perceptions sont tout aussi importantes que les actes parce qu'elles engendrent directement des choses de la part des États-Unis, de la part de l'Europe. Et je pense que ça fera appel à de futures discussions. Voilà, si tu voulais dire un truc, Astro.
Ouais, justement, pour rebondir sur ça. Sur ce que tu disais sur... j'ai oublié la fin de ta phrase, mais bon, bref. Oui, sur que Poutine, il était justement en mode diplomatie par la démonstration de force. Moi, j'y crois d'autant plus, en fait, actuellement, parce que je pense que j'ai en me documentant, en lisant l'actualité, etc., j'ai réalisé un truc, c'est que je pense que Poutine, personne ne sait ce qu'il a dans la tête. Et ça, c'est la première règle, c'est qu'on a beau essayer de faire des prédictions, il arrivera toujours à faire un truc différent. Et donc, il est très calculateur, mais en même temps, très dernière minute. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, je pense sincèrement et qu'on peut lui accorder une seule chose à Poutine, c'est qu'il a une peur monstrueuse, parce que ça reste un être humain. Il a peur que le monde de demain ne soit que la Chine versus les États-Unis. Un monde dans lequel lui n'est pas là, dans lequel la Russie est au fin fond du truc. Pour rappel, la Russie, ça reste quand même le plus grand pays du monde avec le PIB de l'Espagne. Donc la Russie, elle n'est pas en train de mourir, mais elle ne va pas non plus super fort.
On va pas très bien depuis 2014. On est en stagflation depuis 2014.
Et ça s'empire encore plus, notamment avec la crise du Covid. Et même, je crois qu'ils sont repartis en inflation. Enfin bref, ça va vraiment pas bien en général. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est que si on prend les États-Unis, justement pour rebondir par rapport à ça, les trois dernières administrations, donc Obama, Trump et Biden, ont tous dit que le danger de demain, il se trouvait en Asie. Obama, c'était la Chine. Trump, c'était là où on a frôlé un vrai affrontement, c'est avec l'Iran, bien sûr, mais surtout avec la Corée du Nord, avec notamment le missile qui est passé
Tu
au-dessus de
trouves qu'on
Guam.
était plus proche d'un affrontement à l'époque Trump-Corée du Nord qu'actuellement en Ukraine?
Non, 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 mais dans le sens que là où ils se sont dit, ok, on a des enjeux militaires et la guerre de demain, elle se fera où? Elle se fera en Asie. Et les présidents ont mis beaucoup d'attention sur ces enjeux-là. Biden, c'est pareil avec la Chine, avec Taïwan. Dans le sens que quand ils font leur déclaration au mode de la politique internationale, où est-ce qu'elle va se tourner principalement? C'était principalement vers l'Asie. Et du coup, pour Poutine, qu'est-ce que ça lui dit? Ça lui dit que les démocrates et les républicains, ils sont d'accord sur rien, mais ils sont d'accord sur le fait que la Russie, c'est pas l'ennemi numéro un, entre guillemets, c'est pas la personne à qui il faut à tout prix discuter avec, ils sont pas dans l'ordre des négociations très haut. Et que je pense que justement, il veut à tout prix attirer l'attention des États-Unis et il joue sur la corde sensible de
Mais quel
la guerre
intérêt de tout
froide.
ça?
Alors,
Parce
ça va
que ça
revenir à
fait
la
quand
fin.
même, ça fait quand même 30 ans que, enfin non, 30 ans, j'exagère un peu, mais au moins un bon 15 ans que, à part la Crimée, depuis les Tchétchènes, si je te prends l'intervalle Tchétchène-Crimée, au final, Poutine, il se fait jouer assez low profile. Il était
Oui,
bien content de tout ça pour pouvoir
mais...
gérer ses affaires à l'intérieur, parce que plus il s'expose sur la scène internationale, plus on le médiatise. Et on le voit bien, on regarde beaucoup plus, comment on appelle ça? Comment il s'est maintenu au pouvoir, etc., depuis la guerre de Crimée. On n'aurait jamais eu des cas Navalny qui auraient fait le tour du monde des médias il y a 10 ans.
Mais justement, c'est que le point, c'est que en fait, il faut à tout prix qu'il existe sur la scène internationale. Ça, c'est le premier point. Et en ce moment, il n'est pas tellement en train de le faire, justement, comme je disais, avec la Chine et les États-Unis. Et que, en fait, ce qu'il cherche à faire à tout prix en ce moment, selon moi, c'est de se réapproprier l'agenda international. C'est-à-dire de dire, c'est moi qui dicte comment ça se passe, pardon. C'est la Russie qui dit, bah maintenant, toute l'attention, elle va être vers l'Ukraine parce que j'ai décidé peut-être ou pas, je sais pas, de l'envahir. Et d'ailleurs, vous êtes tellement désespéré que vous êtes en train de me faire des demandes. Vous êtes en train de me. Maintenant, vous êtes en train de discuter qu'avec moi. Et je pense que Poutine ne veut qu'un seul interlocuteur pour mener à bien ça, c'est Biden. Et pourquoi il a attendu Biden et il l'a pas fait avec Trump? Parce que Biden, faut pas oublier, je vais pas insister sur son triste âge, mais c'est quand même quelqu'un qui a passé toute sa carrière politique dans la guerre froide. Et je pense qu'il joue sur des ressorts très guerre froide. C'est ce qu'il est en train de faire en vrai de vrai. Il a deux doigts de mettre des rampes de missiles histoire de menacer l'Europe et l'OTAN. C'est-à-dire qu'on est à ça à peu près comme on avait dans les années 70 ou 60 avec en Europe avec la guerre froide, notamment en Pologne. Et justement, cette politique internationale, on fait l'erreur de penser qu'il a un intérêt tout autre qui est d'envahir l'Ukraine, parce que je pense que son intérêt propre, c'est de dicter l'agenda international pour justement faire une politique nationale. C'est-à-dire qu'il veut faire une démonstration de force pour son propre peuple. Et ça, j'en reviens un peu à ce que je disais la dernière fois, c'est que la Russie, on oublie trop souvent qu'en ce moment, elle va super mal. Et que Poutine, bah, il va mal aussi du coup, parce que ça reste un... C'est tout ce qu'il y a eu avec notamment Navalny, effectivement, le fait qu'il y ait tout un mouvement qui s'organise contre lui, le fait que les réseaux sociaux ont permis ça. Il faut qu'il arrive à dire non, non, mais la Russie est toujours ultra importante et je suis la seule solution. Et les
Ouais, puis en
Russes.
plus, ça se trouve, en plus, peut-être pour rebondir sur ton point, c'est je pense que malheureusement, la communauté internationale est en train de se faire avoir. Juste parce que, juste un statement comme ça, pour moi, puis après ça, on pourra en discuter si vous voulez, mais sauf que pour moi, la Russie n'est pas une puissance n'est pas une puissance mondiale, c'est une
Putain,
puissance régionale.
t'es bien nord-américain, toi.
Puis d'où te parler du Kazakhstan,
Ouais.
on parle de Biélorussie, on parle de l'Ukraine. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Est-ce qu'ils sont en Afrique? Est-ce qu'ils sont en
Bien
Amérique du
sûr,
Sud?
ils sont en Afrique avec au Mali,
Non, mais c'est
notamment.
ça. Mais sauf que on parle pas de présence, de grosse présence comme la Chine avec des méga accords. Je sais pas si vous avez vu, il y a une super belle affiche qui montrait les contrats économiques entre les pays africains et leur premier exportateur. Puis dans 20 ans, on a passé de le trois quarts de l'Afrique à la France jusqu'à la Chine. Donc on a vraiment comme un débalancement. Mais Pour moi, la Russie, c'est vraiment une puissance régionale et je me demande vraiment ce que les Américains sont en train de faire parce que Biden est en train de faire vraiment, pour moi,
Une
une
connerie.
genre de guerre froide, un genre de. Je sais pas si vous vous souvenez de. Ben, vous vous souvenez. Dans vos cours d'histoire de la guerre Iran-Irak, un peu avec les Américains qui donnaient énormément d'armes à des groupes paramilitaires extrémistes et tout ça, puis. J'aime pas ce qui se passe, j'aime pas ce qui se passe en
Toi, tu
Ukraine
penses que
en ce moment.
les États-Unis sont en train d'instrumentaliser entre guillemets le peuple ukrainien pour que limite ce soit eux qui déclenchent une guerre vis-à-vis de la Russie?
Non, je crois pas, mais sauf que je trouve ça drôle que Biden dise si les Russes attaquent en premier, on va devoir intervenir,
Répondre.
mais.
Le problème,
Mais
c'est que
je.
qu'est-ce qu'on définit par une attaque? Parce que si on définit par une attaque
Oui,
le premier
tout à fait.
sang-versé, le premier sang-versé a déjà coulé. Si on définit par une attaque le premier tank qui passe la frontière, c'est très
Moi,
compliqué. Et
je
en
pense que
fait,
c'est
on ne peut
ça.
pas remettre sur les épaules de juste dire, ah bah regardez, je sais pas, je te prends par exemple, c'est la Russie qui sont les méchants de cette histoire au point de vue de la communauté internationale, si on croit encore au droit international. Et il y a un moment, il va falloir que ça fasse sur le
Au
procès.
point de vue de l'Occident en ce moment, parce que pour
Non,
vrai,
mais
la
il faut
Russie,
que ça passe devant le
elle a
Conseil de sécurité
déplacé.
de l'ONU à un moment ou à un autre. Ça, c'est, je
Non,
ne
mais sauf,
comprends
ouais,
pas
mais.
comment on n'a pas encore parlé de l'ONU. Enfin, comment le Conseil de
Ouais, parce que
sécurité ne
ça
s'est
sert
pas
à rien l'ONU
exprimé.
en ce moment,
Non,
là,
non,
on le
mais
voit, là.
ça sert exactement à ça. Là, je suis désolé, mais le Conseil de sécurité de l'ONU a été créé en plein début de guerre froide et a permis justement, pendant le début de la
Mais
guerre froide,
à quoi il
à
va servir,
maintenir
la
le.
Russie un
Ben,
veto?
tout comme. Non,
La
non,
Russie un
mais
veto?
Il crée
Exactement
les
comme il a fait
canaux
au
de
début. C'est
communication.
ça.
Tout ce qu'on a aujourd'hui, les Blinken qui se retrouvent en Suède ou à Genève pour aller discuter avec le ministre des Affaires étrangères, russe, qu'on le veuille ou non, en vrai, c'est grâce à l'ONU. Parce que l'ONU oblige d'avoir un canal de communication diplomatique où tu peux pas non plus faire n'importe quoi et tu sais que. Enfin, c'est un peu comme un. Comment on dit? C'est un peu ton conseiller en thérapie de divorce, quoi. Tu détestes ton ex-femme ou ton ex-mari, mais tu vas quand même lui parler parce que dans une salle avec un avocat, parce que il faut quand même que. Bah, t'as un toit où dormir et que t'as de la thune et c'est un peu c'est le même ressort qu'ils essayent d'avoir
Oui,
et ça
mais
l'ONU
sauf que
ne
la
sert
question
qu'à ça
c'est
pour moi.
ouais, mais
Ils ne
sauf que
sont
la
incapables
réc
de prendre des comment dire, ils seront incapables d'arrêter une guerre si les deux parties ne veulent pas veulent faire la guerre. Ce que je veux
mais
dire
la vraie
c'est qu'au
question
moins ils peuvent
c'est
se mettre
quoi?
d'accord pour faire la guerre.
C'est quoi l'enjeu en ce moment des États-Unis là?
Ah, je
C'est quoi
pense
le
que
ils sont en train de faire les White Knights en ce moment
pas
là, genre ils sont
tellement.
vraiment en train de ben,
Parce que,
totalement.
rappelle-toi que les États-Unis, quand même, il faut faire attention. Les États-Unis, l'Ukraine, c'est pas leur terrain de jeu le plus fou, là. Hein. L'Ukraine tire les couvertures, entre guillemets, de ce qui nous intéresse. Voilà, mais rappelez-vous, le deuxième volet de notre dernier podcast, c'était Taïwan. On parlait de est-ce que les États-Unis ont les moyens de mener une guerre, patiti patata. On en était rendu à là sur un conflit. Je vous fais un worst case scénario. Si la Chine et la Russie par soit coïncidence d'agenda, soit par coordination malsaine, se retrouvent à avoir le premier sang versé le même jour, quelle est la réaction des États-Unis? Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont la crédibilité? Est-ce qu'ils ont les ressources, en fait, tout simplement? Et je ne parle
Ça,
pas de
j'avoue, c'est un
ressources
point de vue
juste
très
financières,
intéressant,
mais juste de
ouais.
dire on est capable de s'engager et que l'opinion publique, qui était aussi un sujet de notre dernier débat, que l'opinion publique de notre peuple va dire oui. Là, on va s'engager aussi bien pour des Ukrainiens, qui est un petit peu la base de l'OTAN, donc ceci, cela, que pour des Taïwanais, en sachant qu'ils se sont engagés au niveau de Taïwan et que là, ils sont en train de
Big
faire les
time,
mêmes
ouais.
engagements au niveau de l'Ukraine. C'est-à-dire, ils commencent à faire des chèques en blanc, là, à droite, à gauche, de dire on vous
Très
protège.
dangereux.
Et c'est exactement ce qu'on sait de l'OTAN, c'est que c'est trop grand, c'est trop puissant, ça fait beaucoup trop peur à n'importe qui d'autre, ça crée. La simple existence de l'OTAN crée un dilemme de sécurité chez ses voisins. Mais bien au-delà de ça implique que les États-Unis sont les deux pieds dedans. Et s'ils s'engagent à ce niveau-là, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir leur parole? Et à quel niveau? Et le problème, c'est que moi, de mon côté, je vois un Biden qui rattrape un petit peu un début de mandat où il a été effacé. Tu as parlé de l'Afghanistan,
Ouais.
où il est passé un peu pour je vais pas dire un guignol, mais un faiblard, parce qu'on passe après Bush, Obama, Trump, qui sont illustrés en bien ou en mal sur la scène internationale. Et lui ne s'est pas illustré. Pas en bien, pas en mal, il s'est pas illustré.
Ça fait quand même
Donc.
un an aussi qu'il est au pouvoir, il faut quand
Ah
même
oui,
le
mais
dire. Et
en un
aussi,
an, je
non,
te
mais attends,
rappelle
non, mais attends.
je te rappelle
Non,
comment
non.
Obama avait agi en un an, je te rappelle comment Trump avait agi en un
Ouais,
an.
Fire and Fury.
C'était énorme. Ouais, il avait envoyé un tweet,
oui, sauf que le
Déclenché les attaques de drones par-dessus un gâteau au chocolat, je crois, un truc comme ça.
Oui, mais le plan de sortie de l'Afghanistan a été mis en place par Donald Trump quand même.
Il a été mis en place par Biden
qui a fait OK, on s'en va de là.
Non, il a été mis en place par Obama, c'est encore pire que ça. C'est lui qui a vraiment payé les pots cassés de 10 ans de trucs. Voilà. C'est pas sa faute, mais c'est le seul truc qu'on a retenu. C'est ça le problème. Ouais. C'est comme le
Covid. Mais c'est une mauvaise place pour moi de commencer en Ukraine. C'est on dirait l'Irak, on dirait l'Iran une deuxième fois. Ça commence vraiment à me dégoûter.
Je te prends un exemple. Regarde Kamala Harris. Est-ce qu'on en a entendu parler ces 4 derniers mois?
Non.
Et où est-ce qu'elle était fourrée cette semaine? En Europe. Kamala Harris a été un objet de campagne, ça a été sa petite marionnette. Regardez, j'ai une femme noire avec moi, première vice-présidente noire des États-Unis.
Regardez-moi. Je suis pas raciste.
Je ne m'en sers plus. Et par contre, là, il va falloir que je remonte, comme tu l'as dit, il y a les élections, donc je pense pas qu'il serait prêt à aller en guerre pour des élections. Mais en point de vue des États-Unis, c'est vrai. On peut en parler, ça. Je peux ouvrir une porte là-dessus, mais juste pour Kamala Harris, puis pour l'image de Biden, puis après je vous laisse partir là-dessus. C'est super important parce que là, Kamala Harris remonte sur le devant de la scène, c'est elle qui va aux négociations, etc. Alors qu'elle a été en arrière-plan derrière, elle a peut-être fait beaucoup de travail, mais en tout cas, sur la scène internationale, on n'en a pas entendu parler. Et lui, le peu qu'on a entendu parler, c'était malheureusement la débâcle de l'Afghanistan et, je me permets de le rappeler, le coup dans le dos qu'ils ont fait avec le pacte AUKUS, oui, qui est énorme. Et on en avait discuté à l'époque avec Astro. Et c'était la question. Ah ouais,
peut-être
mais peut-être
juste
que.
Rappeler à nos auditeurs, c'était quoi ce pacte-là, s'il vous plaît.
Alors, très rapidement, en gros, la France et l'Australie avaient conclu un accord majeur de plusieurs milliards d'euros pour des sous-marins nucléaires, 7 si je me souviens bien. Et ils se sont fait voler littéralement le contrat par les États-Unis dans le cadre d'un accord d'alliance défensive, il me semble que c'est défensif, entre l'Angleterre, l'Australie et les États-Unis. Et là où c'est un petit peu le côté... comment ne pas dire le côté pute, le côté traître, c'est que tout ça a été fait dans le dos totalement des Français qui n'ont même pas été invités aux discussions, n'ont même pas été tenus au courant que ces discussions avaient lieu parce que les Anglais tenaient vraiment à ça et les Américains, bien évidemment... Bref, tout ça pour dire qu'à la fin, les Français ont appris qu'ils perdaient le contrat et qu'en plus, des alliés militaires et des alliés économiques les avaient évincés pour ce pacte. Voilà. J'espère que j'ai bien résumé rapidement.
Oui, c'était très bien résumé.
Le seul contrepartie qu'on avait dit avec Astro à l'époque, c'était oui, mais l'Europe, ça y est, va s'illustrer avec une armée européenne, peut-être.
C'est
une
chance pour l'Europe. Là, ils avaient toutes les cartes à ce moment-là, effectivement, pour dire, vas-y, on fait notre propre armée roue libre. Mais c'est vrai que je pense que je vais devancer ce que tu veux dire, mais c'est vrai que là, on voit bien qu'ils se rangent tous derrière les États-Unis. Ils sont tous là à faire les petits papiers pour les États-Unis parce que l'OTAN.
Exactement.
Moi, je pars de ce postulat-là. On est d'accord, pas d'accord. Je sais pas. Mais pour moi, c'est l'armée des États-Unis. Quoi. Demain, les États-Unis se cassent de l'OTAN. Il n'y a plus d'autre. Enfin, dans le sens que ça ne tient qu'à eux, comme le pacte de Varsovie, c'était l'URSS. L'URSS s'est effondré. Le pacte de Varsovie s'est effondré. Bon, il est revenu de d'autres manières.
Parlons-en, s'il vous plaît. L'OTAN, à quoi sert-il en ce moment, au 21e siècle, en 2022, après 30 ans, après 31 ans, que la guerre froide est terminée, que l'URSS est tombé?
Je pense que si on prend le problème à l'envers, le premier défenseur de l'OTAN, celui qui veut à tout prix qu'il y ait un OTAN, c'est Poutine. Parce que, en fait, d'avoir une armée de l'Union européenne face à lui, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire déjà qu'il a une armée à ses frontières, mais en plus une armée, je veux dire la France, je fais pas souvent ses louanges, mais en tant que pays militaire, c'est vraiment pas les derniers tocards. L'Allemagne, ils sont des fins stratèges en termes de stratégie militaire aussi.
Mais je veux juste deux petites secondes. Vous me parlez des prouesses militaires des Européens. Qui a les plus gros contrats de gaz et de pétrole avec l'Europe en ce moment? C'est la Russie.
Ils vont aller
mordre la main qui les nourrit en ce
moment. La Russie, demain, elle coupe tout. L'Europe, ils vont passer 6 mauvais mois et après, ils vont se relever comme si de rien n'était parce qu'on a l'énergie nucléaire en grande partie. On a beaucoup d'autres types d'énergie aussi. On a des contrats de pétrole avec la moitié de l'Afrique parce que ça, c'est les relents de la colonie. Notamment, je parle beaucoup pour la France parce que j'avoue que les autres pays,
mais
je sais pas trop comment
mais
ils
mais ça, mais sauf que l'Allemagne a décidé de se retirer en ce moment, l'Allemagne est invisible dans les pourparlers avec l'Ukraine. Ils ont dit
comme en Afghanistan,
non,
dis donc.
On n'y va pas. Je ne veux pas parler de ça parce que c'est encore juste les Américains qui veulent faire leur gros jeu face à la Russie. Puis la Russie, ben, qui se fait donner des claques en arrière de la tête en disant je suis sûr que t'es pas capable de le faire.
Oui,
c'est
mais
un peu, on dirait
juste.
Jackass, genre, let's go, t'es pas capable de le faire,
Non,
go, vas-y.
mais le point que je voulais amener, c'est que justement, la Russie n'a pas grand argument pour garder des canaux de communication ouverts avec l'Union européenne en général, parce qu'en vrai, l'Union européenne n'a pas tant besoin de la Russie. Bien sûr, d'avoir du gaz qui vient de Russie, c'est beaucoup plus simple, et notamment une des raisons pour laquelle l'Allemagne veut pas, j'ai oublié le nom là, mais c'est. Le pipeline de gaz qui est censé desservir en partie l'Allemagne. Je me souviens plus du nom, je l'ai plus, mais bref, c'est parce qu'ils veulent pas non plus mettre en danger ce projet-là. Mais tout ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est relativement du confort, si je tire des gros traits, et que vraiment, la Russie a besoin de garder malgré tout une porte ouverte de négociation, enfin de négociation entre guillemets, avec l'Union européenne, et que donc, je pense que. Le meilleur moyen qu'il a, c'est soit de les diviser, mais les diviser, ça fait que tu crées les conditions pour que d'autres se rallient et soient beaucoup plus motivés pour venir te défoncer plus tard, soit tu fais tout pour qu'il n'y ait qu'un seul acteur qui parle et un acteur tu connais bien, qui tu sais qui va les écouter, etc. Et ça, c'est vraiment le propre de l'OTAN. Moi, je pense que vraiment, Poutine, il est en train vraiment de faire une véritable guerre froide. Genre, nous, on l'a pas connu, parce qu'on est né dans les années 90, mais. Là, il est en train de faire, je pense, vraiment une vraie guerre froide et il joue avec Biden, qui connaît les mécaniques, qui connaît ces trucs-là, justement pour dire, mais de toute façon, on va pas aller à un conflit, on sait tous qu'on est trop fort. Moi, je pense sincèrement, et d'ailleurs, on voit qu'il a changé un peu de rhétorique, tu vois, parce que là, dans les dernières semaines, c'est non négociable. C'est-à-dire que je veux que l'Ukraine ne soit pas dans l'OTAN, je veux que vous arrêtiez de vous étendre partout, tout ça, c'est non négociable. Maintenant, on est passé à. On va analyser vos demandes, on va voir ce qu'on peut
Non,
faire.
non, non,
Tu
là-dessus,
sais,
je
il y a.
t'entends pas, par contre, Coco. C'est,
Ah
ils ont
si,
pas,
je te.
ils ont pas, ils ont pas dit qu'ils acceptaient d'écouter les demandes. Ils ont toujours été autant à la table des négociations. Mais c'est juste qu'ils ont rien
Mais déjà,
promis ni rien. Mais
le
ils ont
fait de se
toujours été depuis le
pointer,
début. Depuis le début.
le fait de se pointer aux négociations de base, ça montre qu'ils sont quand même ouverts d'esprit
Ah,
d'une manière ou d'une autre.
mais
il
les
était au
gars,
début et il
c'est
disait
sûr qu'il va se
juste, ah bah oui,
présenter.
on est aux négociations. Mais au début, bah, c'est des exercices militaires. Puis après, ça a été, ah oui, mais regardez, là, on est obligé de renforcer à ce point-là parce qu'on se sent menacé d'une intégration dans l'OTAN. À chaque fois, ils ont des petites excuses, mais ils se pointent, hein, ils répondent.
Oui, mais
Mais.
c'est pas comprenable dans le sens que
Bah
ils
si. Ils
déplacent des
essayent de se
troupes
faire passer
militaires
pour une
sur leur propre
victime.
territoire et les Américains arrivent en disant oh mais fais attention on va commencer à donner des armes à l'Ukraine genre est-ce d'où qui a la légitimité de commencer genre est-ce que les Russes ont parlé de vouloir envahir l'Ukraine quand est-ce que les Russes ont parlé d'envahir l'Ukraine
Ça serait
genre
intéressant de
vrai
savoir si
littéralement genre
eux
on
l'ont,
parle
je
de
pense.
suspicion. Puis on parle après ça des Américains qui arrivent avec leurs gros sabots, qui disent on veut faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN. Genre, l'OTAN ne sert à, de un, ne sert à rien, c'est le chien de garde des Américains. Et Poutine voit ça. Poutine, il sait très bien, il était agent du KGB à la fin de la guerre froide. L'intégration de l'Allemagne de l'Est dans l'OTAN, il était comme ok, ça ira pas plus loin. Oups, la Pologne. Ça commence à
La
faire
Suède aussi,
faire
ou je sais
chier, là.
plus qui là.
Genre après ça, les deux petits pays Balkans en haut, la Lituanie puis la Lettonie, là, qui sont dans l'Union européenne, là, genre ça commence à peut être le fun. Là, genre, moi, si j'étais, je vois l'étau se resserrer, puis je le comprends d'agir de façon
Oui,
cavalière en
enfin, on
disant, genre,
s'entend
je vais
que
tenir mon bout, genre. Genre,
déjà,
je vois.
les États-Unis n'ont pas proposé à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN et l'Union européenne n'a pas proposé à l'Ukraine de rentrer dans l'UE. Les Russes ont posé la première pierre et je pense que c'est toujours important de remonter un petit peu au fil du truc. Les Russes ont amené la question à se poser de dire est-ce que l'OTAN doit protéger l'Ukraine? C'était ça la question qui se posait. C'était pas est-ce que l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN? L'Ukraine a même
Mais c'est une
dit,
question
l'Ukraine
légitime.
s'est même.
Personne ne l'a jamais amené sur la table. Et
L'Ukraine s'est même
comme j'ai
exprimée
dit, la
en
Russie.
disant qu'ils ne voudraient pas rentrer dans l'OTAN, mais qu'ils veulent la
Oui, mais.
protection de l'OTAN en cas d'attaque de la Russie. Et
C'est
c'est
tout
la
comme,
même
genre,
chose. Ah non, non,
la
non,
Russie est une puissance régionale et elle voit tous ses terrains à l'entour d'elle qui est en train de rétrécir, puis elle voit l'Ukraine qui
non,
dit
mais...
« Ah, oh, je veux pas être dans l'OTAN, mais je veux avoir un pacte
ça,
de défense.
Attention.
C'est comme je veux le beurre et l'argent du beurre. »
Attention,
genre,
là, tu mets de la perception que d'un seul côté. Ça marche pas. Tu peux pas accepter la perception que d'un seul côté. C'est impossible. Tu peux pas dire « On prend la perception russe, mais j'ignore la perception ukrainienne. » qui parle sur la scène internationale en tant que victime, parce que tu ne feras jamais passer la Russie en tant que victime quand elle a déjà annexé une partie d'un territoire souverain, lequel territoire souverain avait demandé de l'aide à la communauté internationale et la communauté internationale n'avait rien fait. Et la communauté internationale s'est fait reprocher de ne rien faire. Donc
oui,
tu peux pas prendre que d'un côté des perceptions.
Oui, alors ça, je te contredirais un peu dans le sens, je dis pas que la Crimée s'est laissée envahir, mais la Crimée en tant que telle, ils ont pas non plus forcé. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais faire un comparatif en ce moment, c'est que si demain Poutine il passe la frontière avec des tanks, il va se retrouver face à une armée. C'est-à-dire que les Ukrainiens de 1, de ce qu'on a l'air de dire, ça j'avoue j'en sais rien, mais de ce qu'on a l'air, enfin dans le sens que ça peut changer du jour au lendemain, mais de ce qu'on a l'air de dire, c'est des gens qui sont prêts à en découdre. De 2, maintenant ils sont armés, c'est-à-dire ils ont été armés par l'Angleterre, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Les États-Unis aussi beaucoup.
Oui, voilà, mais et donc la Crimée, par contre, la Crimée, tu sais, c'était quand même 80-85% de russophones, c'était des gens qui...
Moi, je te parle de Kiev, je te parle pas du peuple, hein. Je te parle de Kiev.
Mais Kiev, la Russie, alors peut-être que je vais apprendre un truc ce soir, et ça sert à ça aussi de parler, mais je crois pas qu'ils aient débarqué l'armée à Kiev.
Ah non, mais la question, on s'entend que du jour où tu mets un pied n'importe où sur le territoire souverain de quelqu'un, l'État
oui,
est menacé,
c'est
la structure étatique. Et en
oui,
plus,
oui,
tu avais eu de l'ingérence au niveau des élections d'indépendance, tu avais eu de l'ingérence au niveau des rebelles, tu avais eu de l'ingérence au niveau des armes, du financement. Donc,
oui, alors deux choses pour apporter à ça.
Qui avait menacé de toute façon.
Je te rejoins sur ça, effectivement, il y a ça, mais après, c'est une autre problématique. Et puis, je pense pas que c'est beaucoup d'intérêt de parler de ça, mais c'est que la Crimée, en tant que telle, c'est pas... Ça fait partie intégrante de l'Ukraine, donc c'est vrai que du point de vue du droit international, rentrer en Crimée, c'est rentrer en Ukraine, c'est la même chose. Mais du point de vue réaliste, entre guillemets, dans le sens, est-ce que la Crimée appartient réellement à l'Ukraine dans sa culture, dans toutes ces choses-là, ou elle est plus proche de la Russie ? Peut-être que la communauté internationale, et d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait, elle a dit ça n'en vaut pas la peine. C'est, dans tous les cas, t'as l'impression qu'ils veulent se barrer aussi, tu vois. C'est comme la Transnistrie, qui est une région de la Moldavie, qui a décidé de faire sécession avec l'État moldave, qui ne fait que des accords économiques avec la Russie, qui a beaucoup de gaz, etc., beaucoup d'accords économiques avec la Russie, et qui maintenant fait ses tours touristiques en russe. C'est-à-dire que quand tu vas en Transnistrie, dans cette région-là, qui est très populaire notamment parce que c'est là où il y a les châteaux de Dracula, tu vas pas parler moldave, tu vas parler russe. Donc si demain la Russie décide de rentrer en Transnistrie et dit c'est
ouais,
à nous,
c'est pas comme ça qu'on a organisé la communauté internationale ces 50 dernières années, on peut pas se reposer tellement sur ces
problèmes-là. Comment voit la communauté internationale depuis les 50 dernières années?
Non, mais à ce moment-là, le Sud-Maroc appartient au Maroc, à ce moment-là, je veux dire, on a plus d'ordre à ce point-là.
Non, mais justement, les relations internationales sont, comment on dit, sont pas archaïques, j'ai plus le mot, mais bon, sont...
Dépassées
Non, c'est chaotique, c'est un synonyme de chaotique, je sais plus si ça me
revient. Mais j'aimerais juste...
Mais juste pour terminer mon point,
ouais, vas-y.
Juste terminerai mon point sur ça,
oui.
C'est que la Crimée était une situation très très particulière où tu te demandes, tu peux te poser la question de légitimement intervenir. Est-ce que finalement tu vas pas te retrouver face à des affrontements de gens de Crimée qui vont dire non, non, nous on veut aller avec la Russie. Tu te dis, je vais laisser se régler ça tout seul, si l'Ukraine veut la défendre, qu'elle la défende, c'est un pays indépendant, et là tu te réfugies derrière le concept que c'est un pays indépendant, qui n'a pas besoin d'aide puisqu'il est indépendant, avec un pays démocratique, etc. Mais là, après, là c'est que ce qu'on projette, et c'est ça que c'est vrai que c'est fou, c'est que on projette un envahissement total d'un pays, pas d'une région, totale d'un pays. Donc là, c'est vrai que c'est tout ce que je dis est caduque, et tout ce que je dis est indéfendable dans le point de vue que si la communauté internationale ne réagit pas maintenant, effectivement, ça n'a plus aucun sens. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que les relations internationales sont... J'ai reperdu le mot, je l'ai retrouvé, putain, je l'ai reperdu, c'est indécent. Sont anarchiques, c'est ça le point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens, mais après, ça, c'est des théories politique, mais tout ça pour dire que comparer l'invasion entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, mais l'invasion de la Crimée à l'invasion entière de totale de l'Ukraine, je pense que c'est quand même des situations différentes, et c'est toute la complexité des pays baltes, c'est que c'est des pays qui sont recomposés. Et si on compare, c'est un peu comme le Canada avec le Québec. C'est deux entités presque différentes. Mais c'est pour ça que
Puis
je ne veux pas trop en parler. Ça fait 4 minutes que j'en parle. Mais dans le sens que je pense que ça n'a pas réellement de. Comment dire de. C'est pas vraiment comparable. Et je pense qu'il faut qu'on centre vraiment nos discussions sur l'Ukraine en tant que telle,
oui,
en
mais
tant que
c'est le
pays. Tu
précédent
vois.
que tu cèdes, en fait, parce que moi, si je suis votre raisonnement, le problème, c'est que t'es, de toute manière, quels que soient en fait les désaccords internes qu'il y a, et ça les concerne totalement, il y aurait eu un vote d'indépendance. Le vote d'indépendance a été reconnu en plus par des t'sais, aujourd'hui, il y a des comment on appelle ça, des vérificateurs internationaux, que pour voir si le vote s'est bien passé, s'il n'y a pas eu d'ingérence, et ta 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 ta.
Oui, ils
Et
mettent des
suite à
casques
ce
bleus devant les
vote-là,
trucs et tout.
voilà, mais oui, mais même des, enfin voilà, des casques bleus, on va réduire ça à ça, par exemple. Et suite à ça, ils auraient eu un deuxième vote en disant rattachement à l'Ukraine, à la, pardon,
À la
à la
Russie.
Russie. Ça aurait été une chose. Là, il y a eu quand même un précédent qui a été énorme et qui ouvre une voie qui est affreuse pour l'ordre international. C'est le fait de dire, il y a un pays souverain qui s'est fait envahir et la communauté internationale a réagi avec des sanctions économiques. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, force est de constater, ça a handicapé en partie la Russie. Mais on ne peut pas
Oui,
accepter
tout à fait.
de se dire on va avoir un envahissement partiel, parce que surtout dans un pays aussi gros que la Russie et avec l'histoire qu'a la Russie, surtout dans cette région, c'est beaucoup donné, que ne serait-ce que donné qu'un tout petit peu. Et tu vois qu'aujourd'hui, quand tu regardes ne serait-ce qu'une carte avec des déplacements en Biélorussie de troupes, il y a littéralement un plan d'envahissement total qui est faisable. Et l'Ukraine, c'est pas un petit
Alors,
territoire. Alors,
oui et
ce
non,
sera que les
ça
parties de
sur ce
l'Est
point-là. Je peux
qui intéresseront la
pas.
Russie, parce que c'est là où il y a les ressources, et puis c'est là où il y a le centre d'intérêt. Mais il n'empêche que derrière, le point de vue de l'OTAN, bah c'est si eux, ils se font les grands défenseurs de la démocratie, de l'intégrité des territoires, de l'ordre international, en fait, ils ont quasiment un devoir d'obligation d'intervenir.
Non, ils n'ont pas un
Alors,
devoir d'intégration, d'intervenir, ils ont un devoir de désescalader ce qui se passe en ce moment. C'est exactement ça que je reproche en ce moment à la situation. Les Américains ne vont pas dans le bon sens. En même temps, d'une main, ils négocient, de l'autre main, ils envoient des armes avec les Anglais en disant juste au cas où. C'est pas comme ça qu'on fait une
ils ont
désescalade de la
toujours fait
violence.
ça.
Pardon? Oui,
Ils
mais
ont
c'est pas parce qu'ils
toujours fait
l'ont tout.
ça.
Ben oui, mais sauf que ça
Ça
l'a
s'est
toujours vivé
toujours
en
mal
guerre civile.
fini.
On va
Non.
se retrouver en guerre civile en Ukraine si les Américains continuent à faire la merde comme ça. Puis les Russes aussi, parce que les Russes aussi ils ont une grosse part à jouer là-dedans. Je me fais pas l'avocat pro-russe en ce moment.
Si.
Je fais juste me dire que les Américains, c'est les maîtres de l'OTAN. Si on était d'accord. Donc ils arrivent avec leurs gros sabots. Ils disent bon, négocions. Bon, parfait, on va faire la négociation. Et de l'autre côté, la Russie, elle va se devoir de commencer à dire, ben, je veux placer plus de troupes. Il y a des troupes américaines qui rentrent, il y a des avions, il y a des chars, il y a des canons anti-chars, puis anti-missiles, anti-aériens qui commencent à arriver en Ukraine. Genre, qu'est-ce qui va se passer? Puis si les Russes attaquent ou font une rébellion dans le Donbass, qui est comme une des régions qui est quand même très pro-russe,
Oui.
ça va, qui est encore en guerre, puis à chaque jour, il y a des coups de feu, puis il y a des morts à chaque semaine aussi. On est d'accord? Ça va juste aller partout, puis les Américains, ça va être quoi là? Ça va être quoi le « Ah, on a réussi, ah, on n'a pas réussi » Ce pays-là va s'enliser dans une guerre civile. On a besoin d'une désescalade maintenant,
Mais est-ce que
avec
tu
des
penses que c'est
négociations,
vraiment
avec...
une OTAN à désescalader? Est-ce que tu penses pas qu'il y a d'autres choses comme l'ONU ou l'Union européenne? Parce que l'OTAN, c'est quand même une alliance militaire. Des
Oui, mais
militaires
sauf
sont pas
que
des
tu l'as dit
négociateurs.
tantôt. Oui, mais t'en as parlé tantôt, t'as dit Vladimir Poutine... Il sait c'est quoi l'OTAN, puis il sait que c'est ça sa plus grosse threat.
Ouais,
On s'entend,
parce
la
que...
Turquie est dans l'OTAN, puis c'est quoi qui a créé la crise
Exactement.
des missiles? On parle de la crise des missiles, là, on dit tout le temps, ah, les Russes ont amené des missiles à Cuba. Est-ce que vous le savez? Vous le savez, mais pour nos auditeurs qui ne savent pas peut-être, les Américains ont quand même mis des ogives nucléaires en Turquie pointées sur Moscou. Genre, c'était la réponse des Russes, dans le sens que l'OTAN est une méga puissance, c'est un monstre, et Vladimir Poutine veut l'assurance que l'Ukraine ne soit pas un membre, puis qu'il soit pas puis qu'il n'y ait rien pas de « Ah, oh, on va aller peut-être les aider si… » Tu sais, t'es membre ou t'es pas membre de l'OTAN, c'est pas genre « Ah, oh, t'es semi-un membre, donc on va venir t'aider s'il y a une guerre. » Genre, Vladimir Poutine, je pense pas qu'il y a un gain politique à aller envahir l'Ukraine. Genre, c'est complètement…
Oui.
C'est un suicide politique pour lui. Il commence à se faire vivre, hein, ce pauvre homme.
Mais
Donc, oui,
ouais,
vas-y.
pour rebondir justement sur ce que tu disais, sur le fait que pourquoi il veut s'adresser à l'OTAN et pas à l'ONU, ni à l'Union européenne, c'est parce qu'il passe son temps à expliquer que les institutions occidentales, c'est de la merde. L'Union européenne, c'est de la merde, ça n'a pas d'intérêt. Je parle de ce qu'il dit dans la rhétorique vis-à-vis de son peuple et dans sa rhétorique en général. Donc, il peut pas commencer à les négocier avec eux parce que négocier avec eux, c'est légitimer. Donc, il faut qu'il négocie avec les États-Unis. Sauf que, à moins de débarquer avec les États-Unis, la seule institution qui va permettre de négocier avec les États-Unis, mais en même temps l'Europe, c'est la seule qui existe, c'est l'OTAN. Parce que négocier avec l'Union européenne directement, c'est la légitimer. Donc, ça, c'est hors de question, je pense qu'il le fasse.
Bah, il le fait
Pourquoi il le
déjà à
fait pas?
travers des trucs économiques, hein.
Oui,
Il
mais
la
l'économie,
reconnaît.
c'est pas pareil.
Il
C'est
la
le business. C'est
reconnaît,
que ça rapporte
il
de
en parle.
l'argent. C'est que ça rapporte de l'argent aux Russes. Donc ça, il peut leur faire avaler. Par contre, aller négocier de l'armée, c'est leur reconnaître une force militaire, c'est de leur reconnaître de la stratégie, c'est de leur reconnaître aussi intimement que c'est des ennemis, comment dire, viables. Le seul ennemi viable que la Russie a décelé depuis ces décennies, siècles, c'est les États-Unis. Alors pourquoi il ne le fait pas à l'ONU? Ça, j'avoue, je suis assez d'accord, mais il le fait plus ou moins à l'ONU, comme on l'a dit, avec les rencontres à Genève, avec ces choses-là. Mais pour le public, parce qu'il ne faut pas oublier que, tu sais, moi, je l'entends pas beaucoup, ça, c'est que vraiment, Poutine, il s'adresse principalement, quand il fait quelque chose, c'est principalement pour son pays, et donc intimement, enfin intimement, directement, son peuple. C'est pour faire passer la Russie pour un grand pays. Donc, pour un Russe, c'est plus simple de comprendre, à mon avis, qu'il a réussi à faire piller l'OTAN, qui est, je pense, dépeint comme l'armée du monde, donc c'est la Russie versus the rest of the world, que,
L'armée du monde occidental, j'aimerais juste
oui, mais
pointer parce que bon,
c'est,
voilà.
t'as compris, que plutôt l'ONU, qui est une institution diplomatique, où tout le monde y va, où c'est tranquille, et c'est plus, tu sais, genre, c'est de faire, le but, c'est de montrer au peuple russe que il plie le monde occidental à ses demandes. Et pour un peu d'escalader, notamment sur notamment tous les mouvements, etc. Ce que je vais dire là, donc c'est aujourd'hui, là on tourne le 26 janvier 2022, et c'est d'après les services de renseignement français. Donc de 1, ça se trouve c'est plus le cas au moment où vous l'écouterez. De 2, ça se trouve ils avaient tort. Mais a priori de ce qu'on a observé en ce moment, il a beau ramasser son armée, etc. Il y a des points, il y a des choses stratégiques que la Russie pour l'instant n'a pas mis en place pour déclencher une guerre. Par exemple, elle n'a pas du tout commencé à construire des hôpitaux de guerre. Elle n'a pas commencé à faire des oléoducs, histoire de guerre aussi. Donc c'est des structures qui permettent d'acheminer très rapidement de l'énergie. Elle n'a pas commencé non plus à acheminer des trains pour pouvoir ravitailler les troupes, pour pouvoir faire des campements. Et donc les manœuvres,
Ça, c'est facilement
effectivement.
explicable, hein. Il y avait un très bon article dans Foreign Affairs, je me permets de te couper. C'est que la Russie
Je te permets pas.
a, dans sa doctrine, dans sa doctrine militaire actuelle, la Russie est sur une doctrine de blitzkrieg et sur une doctrine d'attaquer très vite, très rapidement, frapper un
Oui,
coup décisif. Et
mais
ils avaient expliqué justement pourquoi aujourd'hui on n'avait que des troupes qui étaient amassées. C'est vrai que c'était bizarre parce que même les réservoirs, enfin, il n'y avait pas d'entrepôt, de grandes réserves de réservoirs, c'était quelque chose d'entretien et pas quelque chose de pour une guerre de longue durée, parce qu'une guerre de longue durée, ça voudrait dire une guerre de front, etc. Et justement, les réponses qui avaient été données par les experts, c'était que bah, selon le principe de Blitzkrieg, t'en as pas besoin. Tu as besoin de te ravitailler sur le long du truc.
T'as quand même besoin d'évacuer tes troupes et t'as quand même besoin d'hôpitaux. Parce que ça, c'est, je pense, ou alors il est peut-être dans une arrogance totale, hein, Poutine,
Ça se fait
c'est tout à
rapidement
fait
après aussi,
possible.
peut-être.
Dans le sens que il sait, en tout cas aujourd'hui, il sait qu'il va avoir des gens face à lui. Il sait qu'il va y avoir des affrontements. Donc va y avoir des morts, va y avoir des blessés dans les deux camps. Et les Ukrainiens. Moi, quand je vois les révolutions, enfin, entre guillemets, les révolutions, ce qu'ils ont fait, Place Maïdan, etc., et mon avis, s'ils veulent en découdre, ça va y aller sévère. Et je pense que, oui, il est dans l'optique de la Blitzkrieg, effectivement, à la guerre de Tchétchénie, notamment,
C'est ça.
Je pense que l'Ukraine, soit il la sous-estime totalement, ce qui est effectivement tout à fait possible et ce qui vraiment confirme ce que tu dis et infirme ce que je dis, ou alors il le fait pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas vraiment prêt à attaquer. Il est
C'est de la
prêt à
frime
montrer de la
peut-être.
force, voilà, à truc. Et justement, ou alors on se trompe tous les deux, tous les trois. Et ça va être une guerre principalement, ça j'avoue, j'ai pas trop suivi, mais principalement en bordure. Donc c'est-à-dire une guerre navale, une guerre aérienne. C'est-à-dire il n'y aura pas d'affrontement direct, comment dire, tu sais, d'affrontement militaire, j'ai pas envie de dire classique, mais tu sais,
Mais non,
avec de l'armée. Et qu'en
je peux
fait, ils les encerclent pour créer une forme de pression où le peuple se dit je peux pas sortir, donc ça enfermera le
Bah
peuple.
là, pour l'instant, par l'Ouest, il n'y a plus
Et
grand-chose
après
qui est
les
ouvert.
pilonner, quoi.
Ouais, mais sauf que selon moi, ce genre de guerre-là peut pas fonctionner parce que dans le pays, depuis 2014 aussi, puis je crois aussi que c'est quand même quelque chose qu'il faut pas oublier, il y a beaucoup de gens qui sont pro-russes en Ukraine, dans certaines régions. Et les Américains, jusqu'en 2018, ont financé, parce qu'ils se sont fait découvrir, donc ils ont été obligés d'arrêter, la CIA est obligée d'arrêter de financer ça. Ils ont financé des groupes fascistes, donc je sais pas
Officiellement,
si
ils ont été
ça vous
obligés.
sonne une petite cloche, mais moi, ça me fait penser à l'Irak des années 80, ça me fait penser à l'Afghanistan, ça me fait penser à... on finance des groupes qui sont antidémocratiques, qui sont ultra-violents, mais qui pourraient nous servir dans une guerre civile. Moi, je pense que peu importe ce que la Russie fait, si la Russie met un pied en Ukraine ou commence à faire des bombardements, il y a une guerre civile qui va éclater. Les groupes paramilitaires en Ukraine et l'armée ukrainienne est prête à sortir. Puis j'ai juste pas pour ça que je parle de désescalade depuis tantôt. Puis c'est pour ça que je veux pas qu'on parle de ah, Poutine a amené tel tank là, tel tank à cette place-là. Il faut être capable de désescalader en ce moment. Puis je crois pas qu'aucun des deux en ce moment est en train de faire une bonne job. J'espère que les négociations vont donner quelque chose. Mais sauf que si ça pète pour vrai, puis les Russes font comme too bad, on rentre. Ça va éclater en guerre civile. Genre, les gens à Kiev vont se battre. Il va y avoir des gens qui vont être pro-russes et il y a des gens qui vont être pro-ukrainiens. Genre, puis ça va être une guerre dégueulasse aussi dans le sens que, genre, juste pour vous dire, genre, pour vous donner, genre, tu sais, un argument qui est quand même rapide, sec, mais comme en même temps qui va vous montrer. Je vous mets 10 personnes devant vous. Je vous dis c'est qui les Russes, c'est qui les Ukrainiens. Vous allez pas pouvoir savoir. Genre, ça va être une guerre de t'es qui toi. Genre, ça va être une guerre genre. Faussement ethnique, ça va être. J'ai vraiment peur de la suite, de la
Moi,
suite
ce
de
que
ça.
je. Et on peut peut-être finir par ça, c'est donner entre guillemets nos pronostics les plus probables de ce qui pourrait arriver dans les prochains jours. Moi, ce qui ne m'étonnerait pas dans les prochains jours, dans les prochains mois, c'est quelque chose de beaucoup plus stratégique et de beaucoup plus. Mais bon, comme on l'a prévu, peut-être qu'il ne le fera pas. C'est-à-dire que ce qu'il va faire, c'est faire en sorte qu'il y ait un simili coup d'État qui se passe. Ou en tout cas que le président actuel qui est pro Union européenne se fasse dégager et qu'il soit remplacé par un pro-russe et qu'il envahisse le pays et que le message, ça soit, il envahisse donc avec l'armée, il fait rentrer l'armée, ça soit, le président nous a donné son accord pour qu'on rentre. Et que là, pour les États-Unis, ça les met dans une position de merde absolue où ils se disent, bah, si on rentre, déjà on est qui pour rentrer puisque là, on reconnaît les institutions démocratiques. Et le président, mais tu sais, quitte à manipuler les élections et tout, de faire vraiment un coup d'État à distance, quoi, que la Russie ferait, pour avoir les institutions avec eux, et que les États-Unis, justement,
Je
se
suis
disent, bah
désolé, t'es en
nous.
train de me décrire la Crimée, hein. Je me permets de tout couper, mais c'est exactement ce qui s'est
Oui,
passé. Hein.
voilà, mais c'est de reproduire ça, et ça, c'est.
Ouais,
Oui,
mais
mais
encore plus,
justement, ce que je
qu'est-ce qui est
disais.
fou, c'est que depuis 2014, les Américains ont fait en sorte que quelque chose que tu dis comme ça ne pourra pas se. Ça va tomber en guerre civile. Je
C'est
t'ai dit, il y a
ça.
des groupes
Oui, mais justement.
paramilitaires armés jusqu'aux dents avec des fusils américains, des missiles américains qui vont être prêts à attaquer Kiev, vont dire un pro-russe, jamais de la vie, je m'en vais mourir à Kiev.
Bah, le président d'avant, c'était un pro-russe aussi. Hein. Faut pas non plus aller remonter
J'ai
très
dit
loin. Ils ont réussi à.
depuis 2014, les Américains ont fait en sorte qu'une situation pareille ne peut plus se reproduire.
Oui, mais ça, c'est sous couvert que la Russie a pas fait la même chose et a pas fomenté, sachant que eux, ils parlent russe, qu'ils ont. Tu sais, genre. Ça, c'est de trait de l'intelligentsia américaine et de la. Comment dire, de la. Des services secrets, etc. Et en vrai. On ne sait que ce qu'ils veulent fuiter et la Russie fait tout pour ne rien fuiter. Et puis, donc, moi, ce que j'imagine le plus, c'est plus une reprise des institutions de la part de la Russie et de se cacher derrière en disant, bah, nous, on a les institutions avec nous, ils nous ont demandé de venir, on est là pour eux. Genre, comme vous, vous étiez prêt à venir, là, les institutions ont tourné. Si vous voulez, on part en guerre. Mais vous allez partir en guerre contre des institutions qui ne vous veulent pas, avec une véritable armée. Et tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient fait pour déstabiliser le pays avec les. Et ça, on n'en a pas parlé du tout, très peu, dans les deux derniers podcasts, enfin celui-là et celui d'avant. C'est toutes les attaques de cyber-informatique et informatique qu'ils font, notamment. Et ça. C'est enfin on se rend pas compte de l'étendue, mais quand tu coupes l'électricité à la moitié d'une ville ou aux hôpitaux, c'est des coups de pression monstrueux pour négocier dans l'urgence en fait. Et que la Russie a vraiment la main mise sur ces trucs-là. En tout cas, ils sont très forts pour ça. C'est vraiment pas des petits acteurs. Donc, si la
Donc,
Russie doit passer les frontières pour moi, elle aura l'accord tacite ou l'accord des institutions. Je pense pas qu'elle va y aller en mode plein gré. Le scénario le plus dramatique que je vois. C'est
rapidement,
d'avoir un sort
rapidement
ouais,
pour donner
rapidement parce que
du
là, il
temps
va
à
falloir.
moi et puis
Le
du
scénario le plus
je t'explique.
dramatique que je vois, c'est le même, mais avec une sorte de révolutionnaire soutenu et tu sais, comment dire, une sorte de révolutionnaire pro-russe qui dirait, moi, je vais libérer l'Ukraine et qui est soutenu et qu'on entend énormément parler dans les médias, etc., etc., et que la Russie va dire, bah, ce mec-là, c'est la voix du peuple, donc nous, on va aller aider le peuple. C'est vraiment le plus dramatique où je me dirais, ok, ils sont vraiment prêts à tout pour déclencher une guerre. Mais l'idée reste un peu la même.
Du coup,
Ok,
Radi,
pour toi,
éventuellement.
puis.
Bah non,
Ah bah.
je vais
Tu veux
terminer parce
terminer?
que. Je vais terminer parce que je vais pouvoir faire l'intro de fin, je sais pas comment on dit,
Oui.
aidez-moi.
L'outro.
L'outro, voilà.
L'outro.
Voilà,
Bien
donc
écoute.
je te laisse aller, Pidou.
Bah écoute, moi je suis quand même très content qu'on ait eu toute cette discussion parce que je vois que clairement beaucoup. Bah en fait, ma position n'a pas beaucoup changé, moi, des deux débats. Non pas parce que les événements confirmaient ce que je pensais, j'ai pas cette prétention-là, mais que ça s'enligne dans le scénario que je voyais. Pour le scénario de la suite que je vois, ça va vraiment. Pour moi, c'est un cas d'école de dilemme de sécurité. C'est vraiment, j'envie là tous les étudiants qui vont rentrer en septembre, quoique ça va dépendre de la situation du monde en septembre. Mais les étudiants qui s'intéressent justement à ça en ce moment, c'est parce que c'est littéralement du ah ben tiens, il y a des troupes qui bougent, ok ben on menace, ok ben on se sent menacé, ok ben nous on se sent encore plus menacé. Le dilemme de sécurité, vraiment, pour nos auditeurs qui s'y connaissent pas du tout, je vous conseille d'aller regarder un petit peu sur Wikipédia, etc. Nous on vous en fera des résumés très simples qui sont vraiment je perçois la menace de l'autre et je vais faire en sorte de me doter contre cette menace et ma propre dotation va menacer autrui qui va lui-même se doter contre moi. Donc voilà, ça entraîne vraiment une course et ça, c'est un parfait cas d'école parce que voilà, le plus gros clash, le seul truc où je serais parfaitement en désaccord avec Radi de tout ce débat, ce serait de dire, pour moi, enfin de tout ce que j'ai vu et lu, la Russie a fait le premier pas avec ses 100 000 troupes, avec ses mouvements, avec tout ça. Et la discussion de Ukraine défendue par OTAN n'est arrivée qu'après. Et Radi, comme on l'a
Pour
vu
toi,
à un
la
autre
Russie, c'est les
podcast.
méchants, du coup.
Oui, bah, il n'y a pas tellement de méchants et gentils en.
Non, non, mais dans le sens, c'est eux qui ont
Mais.
ouvert les hostilités, quoi.
Oui, complètement, complètement. Ils ont
Ok.
ouvert les hostilités et je te rejoindrai sur ta position du premier podcast, justement, pour. Bah, d'une part, pour démontrer leur force et je pense vraiment qu'il y a un plan de réunification. Pas de réunification en mode let's bring USSR back, mais ramenons l'URSS à nouveau. Mais en mode, voilà, la Grande Russie, c'est moi, c'est Poutine, et j'en suis capable, et je vais vous montrer que je suis capable de faire trembler le monde. Voilà, donc ça, c'est vraiment le truc. Donc, pour en revenir vraiment à ma prédiction et laisser la parole à Radi, aujourd'hui, ça va vraiment dépendre des perceptions, et on n'a pas pu parler, malheureusement, je suis vraiment triste, et je vais prendre juste 2 minutes là-dessus, parce que je trouve que c'est important, du rôle de l'Union européenne dans tout ça. La seule carte maîtresse que l'Union européenne a à jouer, selon moi, dans toute cette histoire, c'est celle de la médiation. Suite à AUKUS, on s'était vraiment tous posé la question, et avec la présidence d'Emmanuel Macron à l'Union européenne, qui est un grand fédéraliste, qui est un grand promoteur de l'idée d'une armée européenne, de la création de cette armée qui pourrait permettre justement d'avoir une défense face à la Russie, mais aussi de s'affranchir des États-Unis, parce que. Qu'on le veuille ou non, le fait que l'OTAN défende l'Ukraine, ça montre que les États-Unis ont encore des bottes en Europe. Et ça nous rappelle une époque où, littéralement, les Américains occupaient l'Europe. Donc, l'Union européenne a cette question de savoir gérer sa propre souveraineté pour une plus grande intégration. Mais si aujourd'hui elle n'a pas cette armée européenne, ce qui est le cas, hein, c'est 10 000 troupes, je crois, 10 à 15 000 troupes actuellement, l'équivalent des forces armées européennes, elle doit jouer la carte de la médiation. Et c'est ce c'est la seule carte qu'elle peut jouer parce qu'elle peut dire, écoutez, nous, on est concernés. Donc, oui, on a notre parti pris, mais on tend vers une seule chose. Il y a une seule chose qui va nous être bénéfique. Parce que même si la Russie perd ce conflit, la Russie ne perdra jamais Moscou, ne perdra jamais Leningrad et Saint-Pétersbourg. Mais la Russie saura montrer les dents. Et nous, on va devoir faire des sanctions économiques qui vont de toute façon nous embêter, nous mettre en porte-à-faux face aux Russes. Donc, nous, on veut la paix et que la paix. Et si justement Emmanuel Macron, qui malheureusement est en campagne, arrive à tirer cette carte et avec Ursula, à générer cet engouement pour la paix en Europe, on va regagner un statut que la France, par exemple, avait en termes de diplomatie. Le fait d'être au centre des négociations. On a deux sièges avec les Anglais. Les Anglais, il faut voir quelle carte ils vont jouer. Pour l'instant, ils jouent la carte des Américains, comme d'habitude. Mais de voir comment, avec le siège qu'on a au Conseil de sécurité de l'ONU, comment on peut dire, voilà, nous, on veut juste une chose, la paix, et on s'en fout du reste. Donc, voilà, moi, si l'Union européenne arrive à s'enligner là-dessus, je trouve qu'on va avancer de manière géniale. Et le fait que les Allemands refusent de donner des armes, c'est un très, très bon exemple à suivre, en fait. Un exemple de dire, non, moi, je ne vais pas rentrer dans votre course. Je refuse. Je ne dis pas que la Russie a raison. Je ne dis pas que les États-Unis ont tort ou ont raison. Je ne veux juste pas rentrer là-dedans. Donc, voilà. Pour moi, c'est une question de perception. C'est une question de positionnement de l'Union européenne. Et enfin, pour terminer, ça va dépendre vraiment des objectifs un petit peu politiques de Biden. Ça, je m'y connais beaucoup moins, c'est pour ça que je vous ai laissé un petit peu plus parler, les gars. C'est que pour moi, ça peut être à double tranchant, et il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Mais si en effet, tout ça, au final, c'est un combat de coq et que Poutine veut montrer que c'est le plus fort et Biden veut montrer aux Américains que c'est le plus fort, on sait tous les trois, et parmi nos auditeurs, beaucoup de gens le savent, que ça peut mener très loin, un combat de coq, et que beaucoup, beaucoup de problèmes peuvent être générés là-dedans. Donc voilà, c'était un petit peu mon point de vue. Pas de prédiction très précise, mais plus un constat à observer dans les semaines qui arrivent.
Merci beaucoup, Pidou, pour ton opinion, puis ta vision de la situation. Je pense que ça va éclairer nos auditeurs. Moi, pour ma part, je vois vraiment un... Moi, j'aimerais voir une désescalade en ce moment-là du conflit. Ce conflit-là n'a aucun sens. Pour moi, il n'y a aucun sens. Biden est en train de faire exactement... Il est en train de faire des techniques de guerre froide de base. Tantôt, je vous ai parlé des groupes fascistes en Ukraine. Ces groupes-là, ils savent qu'ils sont là. Ils savent que quand ils donnent les armes, que l'armée ukrainienne ne va pas juste les garder à eux. Que ces groupes paramilitaires-là ils sont juste là. Ils sont en attente. Ils attendent que ça. C'est de la jeunesse. Un peu, genre, j'ai regardé des reportages il n'y a pas longtemps dessus quand ils sont allés faire un tour en 2018 dans des camps de formation pour ces gens-là. On dirait de la jeunesse hitlérienne. Ce pays-là, en ce moment, tout est en place pour une guerre civile. Peu importe si ce soit les Américains qui disent « Bon, ça n'a rien donné, les négociations. Je vais mettre un bout de mon armée permanent ici. » Ben, les Russes n'auront pas besoin de déplacer des troupes. Ils vont dire, ils vont pouvoir avoir des, c'est sûr qu'ils ont des agents dans les zones pro-russes. Ils vont dire, on intensifie les combats juste assez pour que les groupes paramilitaires, l'armée embarque. Moi, je vois pas comme Astro ils vont prendre le pouvoir, tout ça. Ça va se faire d'une façon insidieuse, comme en Irak dans les années 80, comme la guerre Iran-Irak ou comme en Afghanistan. On finance des groupes parce que vous l'avez dit, puis je pense que c'est Astro qui l'a dit le plus. Biden, c'est quelqu'un qui vient de l'école de la guerre froide. Il sait comment ça marche. Il sait que ces groupes paramilitaires sont prêts. Il sait que tout est prêt. Donc, s'il y a une étincelle à donner, les Russes ou les Américains vont le donner. Et moi, je souhaite de tout cœur une désescalade parce que ça n'a aucun bon sens de ce qui se passe en ce moment. Ce conflit-là n'a aucune raison d'être et on dirait que tout le monde en ce moment est en train d'en parler. Ça commence à devenir « Ah, il faut sauver les Ukrainiens ». Oui, mais il ne faut pas les sauver avec une armée ou avec l'OTAN, selon moi. Il va falloir les sauver en arrêtant tout ça, en disant « Ok, je veux une garantie que les Russes restent de leur côté ». Je veux une garantie que les États-Unis ne rentrent pas leur armée ou plus d'armes en Ukraine, parce que c'est ça en ce moment, moi je pense, le nerf de la guerre, c'est qu'il y a un nombre énorme d'armes qui sont amenées par les Russes et les Américains dans ce pays-là. Ça va devenir un pays armé jusqu'aux dents. Et c'est ça qui s'est passé en Irak. En Irak, à la fin de la guerre, en 1985, l'Irak avait la troisième plus grosse armée du monde. En termes d'armes, en termes de gens, c'était un monstre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça l'a complètement implosé, ce pays-là. Ça l'a donné Koweït, ça l'a donné après ça l'invasion de l'Afghanistan en 2003. Donc, Biden, en ce moment, fait ce qu'il veut. Il est en roue libre. Il dit, ben, moi, je veux gagner des sièges, je veux gagner mon mi-mandat, parce que je sais pas si je vais être capable de me faire réélire pour un autre 4 ans, déjà, qui est en train de décéder sur place, puis qui traite les journalistes de son of a bitch. Un journaliste de Fox News, il l'a traité comme ça, parce que le monsieur est rendu sénile, puis il sait plus ce qui se passe dans sa vie.
Sans déconner, je suis vraiment en train d'y penser à ça. Je pensais que c'était juste une vanne, mais c'est
non,
affreux.
Non, c'est pas
mais non, mais en vrai,
ça commence vraiment à plus être drôle là, pour
vous. Ouais, moi je veux. On va. Les images off, entre guillemets, qui existent du G8, de la convention, notamment environnementale et tout, j'ai oublié le nom là, la COP machin.
Ouais, la COP26.
C'est affolant. C'est-à-dire que dès qu'il n'y a plus sa femme, il fait vraiment papy perdu, mais papy
Ouais.
perdu au supermarché, quoi. Genre,
Il fait de la
c'est un
démence, en
enfer.
fait. Il fait de la démence, on dirait un
Et
peu.
c'est là où
Je
les
sais pas,
dans ce podcast sur les
mais.
élections de mi-mandat, on parlera de qui est derrière Biden.
Il
Voilà.
va falloir. Mais écoutez, les gars, moi, c'était tout ce que j'avais à dire. Vraiment, mon mot d'ordre, désescalade. Je veux pas que ça vire en guerre civile, parce qu'en ce moment, j'ai tous les éléments. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Peut-être une recommandation, peut-être pour nos gens, rapidement. Donc, un tour de table, 10 secondes chacun, si vous avez un article ou quelque chose par rapport à l'Ukraine ou par rapport à autre chose que vous voulez plugger. Commencez par toi, Pidou.
Non, 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 ben moi vraiment rester informé. Tu m'as pris vraiment au
Je vous ai pris au
dépourvu.
dépourvu.
Rester informé le plus possible. Essayer d'écouter des gens formés là-dessus, des analystes,
Ouais, pas
des
nous.
et non, non, mais nous on n'est rien, nous on est personne. Mais sortez un petit peu des médias traditionnels. Essayez de lire des choses peut-être plus poussées, peut-être Foreign Affairs, peut-être Politico, qui sont déjà peut-être plus spécialistes, plus... Voilà, le New York Times aussi, ils essayent un petit peu d'être plus poussés. Mais sortez de TF1, France 2, s'il y a des Français qui
Oui.
m'écoutent, parce que vous ne faites que survoler les choses et malheureusement, vous n'écoutez pas ce qu'il faut écouter. Donc voilà,
Moi,
ce serait peut-être un peu mon discours.
je suis assez d'accord pour les Québécois et les Canadiens qui nous écoutent. Sortez de la presse et du journal de Montréal. Le Devoir, ça dépend. Si c'est des articles d'opinion, regardez qui c'est qui a écrit l'article. Sinon, je vous recommande deux. C'est disponible sur Spotify et Apple, deux podcasts. Ça s'appelle, ah bon, c'est connu, hein, c'est Affaires étrangères de France Culture. Et je vous
Même.
conseille
Très
celui
bon.
du 8 janvier. Bon, il date un peu du coup, c'était il y a une... mais bon, ça donne quand même, c'est Biden-Poutine, les règles du jeu en question, qui est très intéressant. Et celui de l'épisode d'après, du 15 janvier, le Kazakhstan, les enjeux de l'Asie centrale. Si vous n'êtes pas du tout familier, notamment avec l'Asie centrale et le rôle pivot qu'il a entre la Chine et l'Occident, c'est très intéressant et c'est que des gens très calés, très quali, qui sont dans ces émissions-là. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. De toute façon, tous les épisodes de Affaires étrangères, c'est toujours des gens très pertinents. On n'est pas toujours d'accord avec eux, mais c'est toujours des gens très pertinents. Donc allez-y les yeux fermés. Et puis dans notre thème, c'est ça que je vous recommande.
Donc moi pour ma part, merci les gars, moi pour ma part là, je vous recommande rapidement, moi je suis toujours je suis toujours champ gauche avec mes recommandations, je vais vous recommander un streamer sur Twitch qui s'appelle Asanabi,
Je croyais que t'allais
américain.
dire Astro 5.
Malheureusement non. Un commentateur politique qui est bon, très, très de gauche, mais qui a des arguments et que j'ai amené certains de ses arguments aujourd'hui dans la discussion, parce que je crois que on les a pas tout le temps, puis il y a quand même une autre sorte de façon de penser et il garde toujours ses idéaux et il garde tout le temps aussi la même vision et sa vision s'applique à toutes les sphères de sa vie et de la société et du monde international. Au niveau international, je le trouve un peu plus faible, mais j'ai quand même amené de ces arguments aujourd'hui parce que je pense que ça l'a poussé un peu le débat aujourd'hui. Donc, je vous recommande Hassanabi, 30 000 personnes à chaque fois qui stream, review l'actualité américaine, internationale. En ce moment, l'Ukraine, c'est quelque chose de gros. Donc, je vous recommande ça. Donc, les gars, si vous n'avez plus rien à dire de votre côté, plus de recommandations, Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, Astropidou, pour cet épisode. C'était des bières et des gars. Donnez-nous des nouvelles pour le son, savoir si ça a bien fonctionné, nos trois micros, chacun dans son coin. Donc écoutez, c'était Astropidou et Raddy LeBrown pour des bières et des gars. Ciao tout le monde!
À bientôt, merci beaucoup.